Remue-ménage a déménagé, oui, on le répétera encore quelques fois, histoire que vous habituiez au fait que nous ne sommes plus de 10 à 12 en direct, mais de 17h à 18h15 sur Radio Zone 93.8. Remue-ménage persiste bien sûr à soulever toutes les questions dont les autres parlent peu ou pas du tout, à dénicher les personnes à qui l'on donne peu ou pas la parole, et surtout persiste à s'intéresser aux femmes, bien sûr. Remue-ménage en direct sur Radio Zone 93.8, Onde Femmes, le mercredi de 17h à 18h30, rediffusé le mercredi soir et le jeudi matin. Et on vous promet pour la semaine prochaine un nouvel indicatif. Et maintenant, France Gall, l'été est passé. De remue-ménage, memento un peu spécial puisque aujourd'hui il consistera en quelques téléphones à des personnes qui vont nous rappeler quelques urgences de cette semaine. Nous avons en direct au téléphone Françoise Hotenin-Girard de l'association des usagers des Paquis puisque ce week-end nous votons pour ou contre le projet de démolition des Paquis et sa reconstruction. Françoise Hotenin-Girard, vous êtes là? J'entends pas. Allô? Moi je l'entends. Hein. Allô? Non, non, c'est faux. De l'autre côté, c'était juste avant. Allô? On a quelques petits problèmes techniques. Françoise? Allô? Nous essayons la technique. Françoise Hotenin-Girard, m'entendez-vous? Non, toujours pas, visiblement. Aïe, 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 que se passe-t-il? Allô, Françoise, vous m'entendez?
Oui, allô?
François, tu m'entends? Vous m'entendez? Allô?
Allô?
Moi je vous entends, mais vous m'entendez pas. C'est ça qui est tragique.
Problème technique.
Eh oui. Bon, reviens. Gérard, pouvez-vous nous dire?
Oui, bonsoir. Alors, c'est Françoise Etna-Gérard des Manipaki, de l'association. Écoutez, l'enjeu des votations ce week-end, c'est donc la démolition ou la restauration des Manipaki, c'est-à-dire que si vous votez oui, ils vont les démolir et faire un projet qui sera simplement la plage du Nogaïlten, avec un restaurant tout près des quais, pour tout près des nuisances. Et si vous votez non, donc ce sera pour une restauration moins coûteuse, avec une façon de la faire douce et qui prendra très peu de temps. Et ça, c'est tout à fait possible. On a reçu encore la confirmation d'un de nos ingénieurs aujourd'hui qui nous a dit qu'on pouvait tout à fait les réparer. Alors voilà, c'est ça l'enjeu des votations pour le 25. Alors non contre la démolition.
D'accord, et on peut encore...
Et oui, si vous ne les voulez plus.
Et on peut donner comme dernier rendez-vous quand même de fête et de soutien aux usagers des Paquis le vendredi soir où il y aura le beau lac de Bâle sur la jetée des Paquis comme toutes les soirées qui ont lieu pendant tout l'été. Alors venez encore manifester votre soutien à l'association des usagers des Paquis dans ce dernier rendez-vous avant les votations vendredi 23 septembre au bain des Paquis avec le beau lac de Bâle. Merci Françoise Etna-Gérard. Ce week-end, il n'y a pas de retour. Non. Ce week-end a lieu aussi la votation sur l'initiative présentée par l'Association des jeunes dirigeants d'entreprise sur la proposition de nocturne d'un soir d'ouverture nocturne des grands magasins. Nous vous présentons, pour rappel, un témoignage de Sabi, qui est vendeuse dans une boutique à Genève et qui nous donne son avis sur la question.
Moi, je ne travaillerai pas, quoi. C'est exclu. Hein. Là, je ne travaille pas dans un truc comme ça. Je veux dire, c'est exclu. Je veux dire, moi, je regrette. On travaille déjà 9 heures par jour. Même si c'est payé ce heure supplémentaire, de toute façon, c'est une misère. Donc, de toute façon, je ne travaille pas pour ça, quoi.
Elle se déroule comment, votre journée ?
Bon, c'est-à-dire que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que le lundi, c'est de 7h à 7h30 à midi, de 1h à 19h, ce qui fait donc 10h30. Le mardi, c'est donc entrecoupé de midi à 1h jusqu'à 5h. Le mercredi, pareil. Le jeudi, jusqu'à 3h. Et le vendredi, jusqu'à 19h. Ce qui fait une semaine de 42h30, quoi.
Et vous avez, pour les pauses, ça se passe comment ?
Je ne peux pas avoir de pause, je suis seule. Je peux pas abandonner la clientèle, quoi. C'est pas possible.
Donc, jamais de pause.
Non.
Et lorsqu'on parle d'une éventuelle ouverture donc nocturne, qu'est-ce que vous faites si ça se passe comme ça dans votre magasin ?
Ah, moi, je travaille pas. Ils peuvent fermer le magasin, faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, je travaille pas. C'est net, quoi. C'est clair. Je veux dire, je travaille pas. C'est exclu. Je refuse. Même si c'est une loi, même si c'est un truc, je refuse ça. J'en ai rien à foutre. Je veux dire, c'est pas mon problème. Je travaille pas, ils ont qu'à prendre quelqu'un ou qui ont envie de travailler comme ça 1 ou 2 heures de plus. Je veux dire, des femmes qui sont chez elles, ou etc. D'accord, bon, celles-là, elles peuvent le faire. Mais moi, je fais pas plus déjà de 9 heures par jour. Je veux dire, ça suffit.
Est-ce que vous pensez que ça correspondrait à un besoin des consommateurs ?
Mais le consommateur, je vais vous dire une chose. Le consommateur, il y a la journée. Hein, bon, ok, il y a ceux qui travaillent toute la journée. Bon, ben, je veux dire, même moi, quand je travaille ailleurs, je veux dire, même moi, je travaille pas dans un truc d'alimentation. Il faut bien que je me débrouille. Hein, faut que je me débrouille pour acheter à manger. Hein. Et pourtant, j'ai peu de temps. Mais je veux dire, je me débrouille. Mais moi, je comprendrais parfaitement que si c'est fermé, c'est fermé, terminé. Quoi. Je veux dire, je me débrouille autrement. J'y vais dans les heures où je peux y aller.
Vous pensez que... On vous en a parlé dans votre magasin d'une éventuelle ouverture ?
Bon, de toute façon, comment, une chose est sûre, c'est que dans mon magasin, c'est non. De toute façon, comment, mon patron, de toute façon, il n'est même pas tellement pour hein, ce genre de choses. De toute façon, ça ne marche pas très bien ici. Mais l'éventualité, par exemple, si moi, j'étais dans un magasin autre que celui-là, et qu'on me dise voilà, bon, bah, alors il y aura les nocturnes, ou etc., je le ferai pas. Comme je travaillais avant chez Ness et Moritz, il y avait les nocturnes, j'ai jamais voulu les faire.
Et vous avez eu la possibilité de vous y opposer ?
Bah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le choix, puisque je suis partie.
Donc, en fait, vous avez dû partir ?
Non, non, c'est-à-dire que je suis partie, mais moi, ils ont ni pénalisé ni quoi que ce soit, mais j'ai dit que je refusais, tout simplement, que j'avais une fille à élever et que j'ai pas m'en fous de leur truc, moi. C'est déjà difficile, je veux dire, comment, de travailler comme ça. Pour un salaire minable, et c'est vrai, c'est un salaire qui est minable. Quand vous êtes seul avec un enfant et puis il faut travailler dans un magasin, c'est très très dur.
Vous gagnez combien maintenant ?
Eh ben, net, ça fait du 2250.
Et puis chez Ness et Moritz ?
Voilà. Et chez Ness et Moritz, c'était une misère encore plus. C'était quoi ? C'était 1800 à l'époque.
Pour 42 heures ?
Là, c'était beaucoup plus que ça. C'était 45 heures.
Et l'époque, c'était quand ?
C'était il y a 8 ans.
Et vous avez l'impression que les vendeuses auraient un moyen de s'opposer à une ouverture des magasins ?
Moi, je crois qu'on peut toujours s'opposer. Je veux dire, c'est-à-dire simplement refuser. Je sais pas, je veux dire, comment refuser ? Tout simplement se grouper et refuser. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire si vous refusez ? Ils peuvent rien faire.
Mais il y aura toujours des gens qui accepteront, car ils ont tellement besoin de ce travail, s'ils peuvent rien faire d'autre.
Oui, mais justement, moi, je crois que... Enfin, moi je vois pas les choses comme ça. Quoi. Mais ça, c'est tellement personnel, je veux dire. Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui ont peur, etc. Mais c'est justement la peur qui fait rien avancer. Enfin, pour moi, je veux dire, même si je suis seule et qu'il y a une centaine de personnes, je m'en fous, je travaille pas. Ils me renvoient, ça fait rien, je vais au prud'homme. Je veux dire, on n'a pas le droit de renvoyer quelqu'un parce qu'il fait déjà 9 heures par jour, plus encore on va lui fiche 2 heures de plus. Même si c'est payé, s'il a des enfants à s'occuper, je veux dire, c'est pas possible.
Bon,
on peut pas.
En cas d'une ouverture nocturne, on parle de compensation, donc il semblerait qu'il ne s'agit pas du tout d'augmenter le nombre d'heures, mais de faire une chose plus flexible.
Oh là là, qu'est-ce que c'est encore ce micmac ? J'ai pas entendu parler de cette histoire, mais je trouve ça absurde. Imaginez, même si on vous dit, bon, ben, vous pouvez venir à 9h le matin, et puis finalement, le soir, bon, ben, vous repartirez, par exemple, vers 10h. Vous êtes seul avec un enfant, vous faites quoi ? Vous en faites quoi de votre enfant ? Vous pouvez rien faire avec, c'est pas possible, vous allez pas l'amener dans les nocturnes. S'il a 6 ans, s'il a 5 ans, il faut qu'il dorme. Donc c'est pas possible, je veux dire, à foutre, moi le matin je veux dire elle est à l'école, le soir c'est pas possible, vous pouvez rien faire.
Et si on vous offre une compensation au niveau des salaires?
Une compensation comment? C'est-à-dire c'est l'hospice général qui me donne une compensation. C'est pas le patron, je veux dire c'est pas le patron, c'est pas l'État, en fait si c'est l'État, ouais, puisque c'est l'hospice général.
En ce moment?
En ce moment, mais c'est obligatoire. Puisque comme je vous expliquais, c'est obligatoire étant donné que comment je gagne 2000, donc 2250 francs net, avec un loyer de 1200 francs, je ne trouve pas moins. Et ça, alors vous pouvez toujours courir pour en trouver un moins cher. Alors, et puis, comment? Bon, il y a ça, une fois que vous avez payé l'électricité, une fois que vous avez payé à manger, quand vous avez un enfant qui a quand même, bon, maintenant il est dans l'adolescence, il y a quand même pas mal de choses à dépenser, parce qu'on croit qu'on dépense plus avec un bébé, c'est pas vrai, on dépense beaucoup plus avec une adolescente. Là, il y a le sport, il y a des tas de trucs, comment qu'ils veulent faire. Bon, il y a ça. Une fois que vous avez dépensé quand même pour un petit peu de loisir, si on peut appeler ça loisir, bon, ben, qu'est-ce qui reste? Une fois que vous avez payé les impôts, ben, je veux dire, vous n'avez rien. En fait, comment j'ai compté, la nourriture, ce n'est pas vrai. Si je n'avais pas la, si j'avais pas le, comment, le, comment, la
le
compensation
soutien,
de, oui, mais de l'hospice général, je veux dire, je ne pourrais pas manger.
Donc vous, ce que ça veut dire, ce qui vous paraît le plus important en ce moment, c'est d'améliorer les conditions des vendeuses plutôt que de penser à ouvrir ou non.
Oui, je trouve que la clientèle, c'est une chose. Mais je veux dire, je trouve que déjà pendant 9 heures par jour, on a le sourire, on est sympathique, ça suffit, Ça suffit, on ne peut plus, quoi. Je veux dire, parce qu'on va finir par les tuer, quoi. Je veux dire, non mais c'est vrai, je veux dire, on va arriver à un moment donné où la clientèle, je veux dire, on va s'en fiche complètement. Pourquoi? Parce que le salaire, derrière, il est tellement mauvais. En fait, c'est déjà fatigant d'être debout toute la journée, de piétiner. En plus, que vous ayez des soucis ou pas derrière, je veux dire, il faut toujours être aimable, il faut toujours être gentil.
Nous proposons en tout cas de refuser cette initiative sur l'ouverture nocturne des grands magasins tant que les conditions de travail faites aux vendeurs et aux vendeuses qui devront effectuer ces ouvertures, nous refusons de faire ces ouvertures nocturnes tant que les conditions faites aux travailleurs et aux travailleuses ne seront pas précisées, puisque contrairement à ce que pensent les initiants, on ne va pas discuter une fois qu'on aura voté. Il faut au contraire s'assurer que les conditions de compensation salariale et de temps sont assurées aux travailleurs avant même de décider l'ouverture de ces grands magasins. Une petite pause musicale avec Lenny Lovitch.
So or take a year or so, someone will come and rub it out, delete the words that hurt my heart. Oh yes, there will remain a little hurt, a little stain. The memory can still be read upon the wall.
The writing on the wall, oh, 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 the writing on the wall.
Vous êtes bien sûr toujours à l'écoute de Romu Ménage. Vous êtes bien sûr toujours à l'écoute de Romu Ménage sur Radio Zone 93.8. Je ne sais pas si pour vous c'est comme pour moi, c'est qu'il y a un bruit infernal. Mais enfin bref, on fait des tentatives de téléphone puisqu'il y a beaucoup de sujets importants, brûlants d'actualité qui méritent d'être discutés. Mais malheureusement, on a des problèmes techniques aujourd'hui. Alors là, on fait encore une dernière tentative. Nous avons contacté Yasmina Feur qui participe à l'action parrainage de requérants d'asile et qui s'occupe particulièrement d'une famille qui s'appelle la famille Khan, une famille en danger. Yasmina, est-ce que tu m'entends ?
Oui, je t'entends.
Voilà, alors est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la famille Khan ? Depuis quand ils sont en Suisse et qu'est-ce qu'ils font actuellement chez nous ?
Alors, la famille Khan, en fait, se compose des parents, le père et la mère, et puis de 5 enfants âgés de 5 à 15 ans. Et M. Khan est venu il y a déjà 5 ans ici, en Suisse, à cause de la situation du Kurdistan turc. Il fait partie de l'ethnie kurde et ce sont des gens qui sont en proie à des persécutions dans leur pays. Et lui était assez lié avec des gens qui s'opposaient à la politique des Turcs. Et il a fui son pays à cause de du fait qu'il avait été inquiété. Et donc, il est arrivé en Suisse il y a 5 ans. Il a déposé une demande d'asile à ce moment-là. Et il n'a pas eu de réponse avant il y a une année, donc, à peu près.
Et quelle a été la réponse?
Alors, cette réponse était négative. Mais entre-temps, sa femme était venue en Suisse au bout de 3 ans de séparation. Il avait, malgré tout, renoncé à l'idée que son problème se réglerait rapidement. Et il avait, en fait, fait venir ses enfants et sa femme, qui sont donc, eux, là depuis plus de 2 ans maintenant.
Et les enfants vont à l'école?
Oui, alors les enfants vont tous à l'école. Ils sont tous bien réussis à très, très bien à s'intégrer, à apprendre le français. Quand on les voit jouer, quand on les accueille ou qu'on va les voir, on n'a pas du tout... On ne pourrait pas imaginer qu'ils viennent d'arriver en Suisse, quoi. J'ai été très surprise quand j'ai appris à les connaître, de ce point de vue-là.
Et quant à M. Kahn, lui, il travaille évidemment
Oui, en alors Suisse. Lui, bon, les premiers temps, quelqu'un qui dépose une demande d'asile ne peut pas travailler, mais ensuite, il a trouvé du travail et il a travaillé très régulièrement jusqu'ici. Et, bon, il fait un travail très dur dans une usine, mais ça lui... Disons qu'il ne demande pas plus que ça, il est content de pouvoir travailler déjà.
Alors maintenant,
et il subvient à peu près aux besoins de sa famille.
Et maintenant, alors concrètement, dans quelle situation il se trouve?
Alors ils ont reçu donc une réponse négative à leur demande d'asile il y a une année. Ils ont fait recours, le recours a aussi été refusé. Et ils auraient donc normalement à ce moment-là, on demande aux gens de quitter la Suisse. Mais M. Kahn, lui, peut pas du tout envisager de retourner au Kurdistan, enfin en Turquie, et alors il a essayé encore de faire d'autres cours, et puis avec un groupe de parrainage, nous les connaissions, nous les avions déjà entourés au moment des premiers refus, et nous avons aussi de notre part, en tant que citoyen suisse, essayé de prendre contact avec les autorités pour qu'elles revoient leur décision, parce que ces gens n'ont nulle part ailleurs où aller. Alors, on se trouve un peu dans une impasse de ce point de vue-là.
Donc, ce que l'action parrainage de requérants d'asile propose actuellement, donc, c'est d'envoyer une lettre à Peter Arbenz, le délégué aux réfugiés, donc une lettre qui soutient la famille Kahn.
Voilà, c'est ça. C'est une lettre qui a été rédigée par l'action parrainage, que nous distribuons autour de nous, en fait, à tous nos amis, à nos collègues de travail, à notre famille, et les gens qui sont d'accord, envoient cette lettre ou rédigent eux-mêmes une lettre plus personnelle et la font parvenir à M. Arbenz dans l'espoir que le fait que beaucoup de personnes nous soutiennent puisse avoir un impact et appuyer toutes les demandes que nous-mêmes nous avons déjà faites.
Alors, en tout cas, je vous remercie de nous avoir parlé plus précisément de cette famille.
Mais c'est nous qui vous remercions de nous donner la parole.
Alors, justement, pour toutes les personnes qui sont intéressées à soutenir la famille Kahn, et nous, ça nous paraît très important parce que la famille Kahn est une des nombreuses familles qui se trouvent dans une situation extrêmement délicate, celle de s'être installée dans un pays, d'avoir fait l'effort de prendre connaissance, d'apprendre une langue et de s'y adapter, et qui rapidement devraient quitter la Suisse. Alors, si vous aussi, vous vous sentez concerné par ce genre de situation, soit vous téléphonez à l'action parrainage de requérants d'asile. Un numéro de téléphone, peut-être que tu peux nous le rappeler, Yasmina.
Celui de l'action parrainage, non, alors ça, je n'avais pas préparé, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais attendez, je vais le trouver. 20-78-11.
Alors 20-78-11, 022 puisque c'est à Genève, où là vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur cette famille. La lettre aussi, si vous voulez une lettre type, à envoyer donc à Peter Arbenz, délégué aux réfugiés. Si vous désirez l'écrire vous-même, son adresse c'est Peter Arbenz, délégué aux réfugiés, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, ou encore si vous êtes intéressé par l'action parrainage, donc les mêmes adresses. Merci.
Être un rêveur. qui jongle avec les foudres et Aka retourne coucher dans son décor. Quand le réel reprend ses droits, vendez-moi. Une île déserte, vendez-moi. Une île déserte. Il pensait tout haut dans sa tête que la petite avait de quoi qu'il pourrait profiter.